Europe 1 Sport,
Virginie Fulpin.
Il est 20h24, Europe 1 Sport décrypte la géopolitique du football, des Coupes du Monde avec nos invités Pascal Boniface, Kevin Vessière, Clément Pernia et Philippe Doucet. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement à la Coupe du Monde qui arrive au Qatar. Avant de se lancer dans le soft power, dans le sport, honnêtement le Qatar, personne ne savait exactement où ça se trouvait sur une carte, Kevin Vessière.
Oui, c'est ça. Enfin, personne ne savait en tout cas au moment où ils ont obtenu l'organisation en 2010 et même avant. Mais c'est pour ça aussi que le Qatar a voulu investir dans le sport, parce que le Qatar, c'est un jeune pays qui est indépendant depuis 70, qui était sous ingérence saoudienne. Et finalement, c'est à partir des années 90 qu'ils ont voulu se faire un nom, rayonner. Et ils ont utilisé le prisme du sport parce que leurs États voisins, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis étaient reconnus dans d'autres domaines. Et le Qatar a essayé d'investir le domaine sportif pour se faire connaître. Sauf que le Qatar, ce n'était pas un pays de sport. Donc ça leur a pris plusieurs années pour avoir différents événements sportifs, intégrer les instances sportives. Et finalement, ça a donné cette annonce surprise pour beaucoup de personnes en 2010 avec l'organisation de la Coupe du Monde pour 2022. Mais de 2010 à 2022, on peut se dire qu'aujourd'hui, le Qatar, il est connu de tous, de par le fait que, via son fonds d'investissement souverain, il a racheté le club du PSG. Il a aussi le groupe de médias sportifs beIN Sport. Donc maintenant, le Qatar, c'est un acteur crédible dans le domaine sportif et aussi au niveau international, parce qu'on le voit avec la question de l'Afghanistan, où il a été le médiateur entre les États-Unis et le Taliban, et puis avec la question du gaz et notamment du GNL qui revient sur le devant de la scène et où le Qatar redevient encore plus un acteur important au niveau international.
Alors j'ai employé le mot soft power, Clément Pernia, vous l'avez employé aussi tout à l'heure. Pour revenir aux bases, ça veut dire quoi exactement? Ça recouvre quoi?
Pour donner une définition simple, je ne sais pas si elle est exhaustive, mais me paraît plutôt simple, c'est une manière de promouvoir son pays, ses activités et son action à travers le prisme du sport. Donc le Qatar l'a très très bien fait, je trouve, grâce au PSG, à beIN Sport et tout ce qu'a évoqué Kevin. Aujourd'hui, beIN Sport est diffusé dans quasiment tous les pays. Le PSG est la marque la plus valorisée cette année, la marque de sport. Avec les Lakers, je crois, la marque la plus valorisée de sport. Vous vous rendez compte, le chemin parcouru en 12 ans par le PSG grâce au Qatar. Le PSG a aujourd'hui les meilleurs joueurs de la planète. Messi, Mbappé, Neymar. Aujourd'hui, tout le monde parle du Qatar, tout le monde parle du PSG. Et en plus, il y a l'obtention de la Coupe du Monde. Donc c'est factuellement, c'est un franc succès. Et c'est l'illustration parfaite du soft power.
Donc exister par le football, c'est ce qu'a décidé le Qatar et ce qu'a réussi le Qatar, Philippe Doucet.
Oui, soft au sens où sans tirer un coup de canon.
Voilà.
C'est-à-dire on monte en puissance, on devient un pays important dont on parle, sans tirer un coup de canon, sans envahir un voisin, sans acquérir à coup d'armes des milliers de kilomètres carrés et grandir, etc. Voilà, et on devient un pays connu alors que le Qatar, effectivement, est un tout petit pays. Donc c'est une performance, alors bien sûr, qui s'appuie sur une puissance financière considérable liée à la production de gaz.
Ça aide un peu.
Ça aide considérablement, évidemment, parce qu'il a fallu construire tout ça. Mais on a connu dans la région des pays qui se sont beaucoup moins bien servis de cet argent, qui avaient aussi des productions importantes de pétrole et qui l'ont un peu dilapidé ou n'avaient pas de stratégie de ce type. Et qui finalement n'ont pas forcément eu la même réussite. On a même, je crois que c'est Abu Dhabi qui a failli être en faillite totale à un moment.
2008-2009.
C'est ça, ils ont frôlé la faillite, ce qui était quand même un comble compte tenu des ressources dont ils disposent. Et donc il faut rendre aussi ce crédit au Qatar d'avoir véritablement développé une véritable stratégie. Et après, qui aboutit aujourd'hui à cette Coupe du Monde, ce qui agace beaucoup, beaucoup de gens, notamment les pays de l'Occident, qui n'aiment pas que leur domination culturelle, intellectuelle, à défaut d'être financière aujourd'hui, soit mise en cause par ce type de pays.
On va revenir sur l'agacement après. Je voudrais juste parler un petit peu de l'histoire de la Coupe du Monde. Exister sur la carte du monde, ce n'est pas nouveau, ça n'arrive pas qu'avec le Qatar. Hein. Dès le premier mondial, l'Uruguay voulait exister.
Oui. Il y a une vraie comparaison à faire entre l'Uruguay et le Qatar, entre la première Coupe du Monde 1930, la prochaine 2022, parce que l'Uruguay voulait aussi exister sur la carte. Il était coincé entre deux géants, brésilien et argentin, et c'est un mécène uruguayen qui a dit « on va faire une Coupe du Monde et je vais inviter avec mon argent » les quatre équipes européennes qui acceptent de venir. Alors à l'époque, l'Italie avait refusé de venir en disant c'est trop loin, on n'y va pas, 15 jours quand même en bateau. Là, l'Italie n'a pas refusé de venir, mais c'est la qualification qui s'est échappée à elle. Et le Qatar, lui, est coincé entre l'Arabie Saoudite, comme Kevin l'a rappelé, et l'Iran. Et donc, en 95, le père de l'actuel émir va au Royaume-Uni et le douanier, il dit « Ah, vous êtes du Qatar, c'est où ça le Qatar ?» Il s'est dit « C'est plus possible, on va... » Donc, ils ont misé sur Al Jazeera et sur le sport. Et maintenant, tout le monde les connaît. Au début, c'était connu que par ceux qui bossent sur le gaz et le pétrole. Et donc là, maintenant, par le sport, tout le monde les connaît, effectivement. Alors, ça a des avantages, ils sont connus. Ça a des inconvénients, ils sont critiqués. Parce que quand on est connu, il y a aussi les aspects moins positifs, il y a la jalousie, il y a un tas de trucs qui se mêlent. Mais en tout cas, ce qu'ils ont réussi, c'est d'exister sur la carte. Ça, plus personne ne se demande qui est le Qatar.
Alors, succès jusque-là, vous l'avez dit, mais est-ce que la Coupe du Monde n'est pas la marche un peu trop haute pour le Qatar, celle qui va donner une mauvaise image, Kevin Vessière ?
C'est forcément à double tranchant, parce qu'ils ont voulu finalement exister grâce au sport et avoir les braqueurs sur leur pays qui est tout petit à l'échelle du monde, hein, parce que c'est la taille de, à peu près de l'Île-de-France, il y a 2,7 millions d'habitants et très peu de nationaux. Mais finalement, c'est à double tranchant parce que ça met en exergue toute la politique du Qatar, à savoir les droits du travail, la conception des droits de l'homme, et puis le fait d'organiser cette Coupe du Monde dans un pays qui n'avait pas de culture football. Ça nécessite aussi de construire des stades, donc c'est des infrastructures beaucoup plus lourdes. On a voulu déplacer la Coupe du Monde en hiver, notamment pour éviter les températures suffocantes. Finalement, les stades seront quand même climatisés. Donc toutes ces raisons-là font que cette Coupe du Monde est décriée. Et c'est notamment pour cela qu'il y a tellement de critiques. Il y a eu aussi des appels au boycott de cette Coupe du Monde. Mais là, il ne faut pas se leurrer. À 2 mois de la Coupe du Monde, ces appels au boycott interviennent un peu tard. Et il fallait se poser la question avant. Parce que dès 2010, quand on a donné l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar dans des conditions troubles, parce qu'il y a des soupçons de corruption, etc., et bien finalement, on savait qu'il y aurait cette problématique des stades, cette problématique des déplacements des supporters. Et cette problématique aussi au niveau du droit de travail et des droits de l'homme. Donc la question se pose finalement, c'est vrai que cette Coupe du Monde a finalement beaucoup de défauts, mais comment faire pour l'avenir, pour pas que ça se déroule dans ces conditions et pas se réveiller finalement 2 mois avant la compétition.
Alors le boycott, les appels au boycott, on va en parler parce que bon, il y a certaines ONG bien sûr qui appellent au boycott, il y a des personnalités aussi en France, Eric Cantona qui préfère regarder Colombo que des matchs de foot dans 2 mois, Vincent Lindon, le comédien. Vous les ressentez comment ces appels au boycott, Clément Pernia ? Ça vous semble utile ou pas ?
Quand on a sorti La République du foot avec Jean-Baptiste Guégan, on avait dit dans le livre, on parle beaucoup de la récupération politique, la récupération générale du football, et on écrit dans le livre, beaucoup de gens ne s'intéressent pas, beaucoup de politiques et beaucoup de gens ne s'intéressent pas au football. Vous allez voir, ils vont tous se réveiller 1 mois et demi avant la Coupe du Monde pour appeler au boycott. Qu'est-ce qui se passe ? On est à fond dedans. Alors, chacun fait ce qu'il veut. 2 questions. Quel est l'intérêt d'appeler au boycott ? Sincèrement, quel est l'intérêt ? Alors que même Amnesty International n'appelle pas au boycott. Deuxième question, quelle limite à ce boycott ? On parle de normes écologiques, entre autres. Très bien, mais la prochaine Coupe du Monde, c'est Mexique, Canada, États-Unis. On en parle de l'écologie avec tous les trajets en avion qui se dessinent. On parle de droits de l'homme. Mais il me semble que la Russie, en 2018, avait déjà annexé la Crimée en 2014. Les JO de Pékin, accessoirement, les Ouïghours existaient déjà à l'époque. Donc moi, je veux bien que cette Coupe du Monde cristallise un peu tous ces enjeux, elle réunisse, et notamment le fait qu'elle se déroule en hiver aussi, ça dérange beaucoup. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie quand même. Il y a énormément d'hypocrisie quand on voit tout ce qui se passe, tout ce qui est prévu et tout ce qui s'est passé dans le monde du football. C'est assez simple et c'est assez récupérateur. Moi, je trouve ça malsain. Et voilà, le fait de se réveiller 1 mois et demi et de faire le dindon un peu comme ça sur les plateaux télé et radio, ça m'amuse, mais je suis plutôt contre ces prises de position.
Mais qui va la boycotter au final, cette Coupe du Monde ?
Personne, tout le monde ira. Toutes les équipes qualifiées bien iront. Il y a des gens qui disent « je vais boycotter, je n'ai pas regardé ». Ok, tu ne regardes pas. Mais là, franchement, et je suis d'accord avec toi, c'est que au bal des faux culs, il y en a qui ne font pas tapisserie. Hein. C'est que c'est quand même assez facile.
Je vais retenir cette phrase.
C'est assez facile de... Pourquoi taper uniquement sur le football ? C'est ça qui m'agace. De 2 choses l'une. Soit le Qatar est un pays horrible. Et donc, il faut pas non seulement boycotter la Coupe du Monde, Mais il faut cesser de lui acheter du gaz, il faut rappeler notre ambassadeur d'urgence, il faut cesser de lui vendre des Airbus et de lui construire, parce qu'on construit beaucoup. Vinci a des gros chantiers. Donc les gens qui disent, ah, moi je n'irai pas au stade. J'irai pas sur les stades où il y a des morts. Oui, il y a eu des morts, c'est vrai. Et il y a des choses à reprocher au Qatar là-dessus. Mais même quand tu vas dans un hôtel, il y a eu des morts pour le construire. Donc moi, ce qui m'agace et en même temps, enfin, c'est qu'à chaque fois, c'est le football. C'est qu'en fait, il y a des gens qui n'aiment pas le football. Et ils se servent du football comme otage parce que quand tu tapes sur le football, tu fais parler de toi. Comme le football est très visible, il y a des gens... Je ne dis pas ça pour Vincent Lindon, que j'apprécie par ailleurs comme acteur, mais il a le droit lui aussi de se tromper. Et lui n'est pas à la recherche de notoriété. Mais vous avez des gens qui sont à la recherche de notoriété, qui disent, bah, je vais taper sur la Coupe du Monde, je vais passer pour un pro-chevalier et un moraliste tout de blanc vêtu, et ça ira très bien. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, il y a effectivement, il faut, et Amnesty International ne demande pas à boycotter la Coupe du Monde, il demande à ce qu'on serve de la Coupe du Monde comme d'un levier pour améliorer la situation. Et ce qui est le cas, alors c'est pas encore tout à fait. Amnesty continue à faire pression, mais l'Organisation nationale du travail dit que le Qatar a fait quelques efforts quand même. Je pense que quand ils ont candidaté, ils se sont pas rendus compte des inconvénients. Ils ont vu les avantages, mais quand tu es visible, tu es visible aussi pour ce qui ne va pas. Et le sort des immigrés est quelque chose qui ne va pas. Mais il y en a certains qui, pourquoi ils se concentrent sur les gens qui construisent les stades, ne se concentrent pas sur le sort des travailleurs immigrés dans les pays voisins, qui est exactement le même, voire pire, ou même à Hong Kong, on a célébré la résistance des Hongkongais, mais je peux vous dire que la situation des immigrés à Hong Kong, elle n'est pas satisfaisante. Donc on voit bien que là, c'est le football qui sert de cible. Et il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait logique.
Et il y a comme un deux poids deux mesures aussi, Philippe Doucet, parce qu'on parlait tout à l'heure des JO de Sochi, qui étaient donc des JO d'hiver dans une station balnéaire, où finalement, ça a duré trois jours, l'indignation sur l'environnement, et là, on a l'impression que c'est quand même une lame de fond. Enfin, c'est ce qui est normal aussi, hein, parce que construire des stades qui ne serviront plus jamais et les climatiser, c'est un problème. Mais pourquoi on s'indigne plus avec le Qatar qu'avec les autres ?
Oui, bah pour les raisons qui ont été déjà expliquées. Il y a une forte hypocrisie et il ne faut pas tellement chercher des raisons politiques à part dans l'exploitation politique de la chose. Mais par contre, le football est très très pratique. Le football sert d'exutoire, tout d'un coup sur l'histoire du char à voile, ça devient tout un débat écologique, comme si le football rassemblait tous les problèmes écologiques de la planète et même les déplacements du seul PSG. Bon, vous vous rendez compte de la petite dimension, la mesquinerie et l'imbécilité de ce genre de propos. Et pourtant, ça fait flore et ça fait des tas de débats dans tous les sens. Mais notez, parce que c'est vrai qu'il y a une montée, on l'entend de plus en plus, ce discours de gens qui découvrent que le Qatar organise la Coupe du Monde. C'est dire s'ils sont passionnés de football. Ils viennent de découvrir là, en septembre. Oui. 2022, que le Qatar va organiser la Coupe du Monde. Donc tout d'un coup, ils entendent ça et tout d'un coup, ils... Bon... Je remarque qu'en France, le Qatar a un régime fiscal assez favorable à ses investissements, et ça dure depuis quelques années en France. Plusieurs gouvernements et présidents de la République ont couvert cela. Du coup, l'État lui-même ne dit pas grand-chose là-dessus, parce que finalement, le Qatar est un pays avec lequel on a des aimables relations, et notamment sur ce strict plan financier. Donc bon, c'est très bien cette indignation qui monte, mais on sent bien qu'elle est, elle est insincère. Elle est tout simplement insincère.
Il y a quand même les irrésistibles Français. Vous savez, la principale association de supporters de l'équipe de France qui dit les supporters des Bleus seront six fois moins nombreux au Qatar que lors du dernier mondial parce qu'ils n'ont pas très envie d'y aller. Donc il y a quand même une part de boycott. C'est pas que du vent.
Oui. Ah non, parce que enfin, quand vous faites une campagne de communication, ça a des effets. Effectivement, il y a des gens, puis vous savez, il y a un effet d'entraînement.
Et je pense qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus violent en Angleterre encore.
Et peut-être aussi dans d'autres pays, mais il y a des gens qui ne vont pas y aller parce que c'est vrai que les prix sont un peu chers quand même aussi, qu'il y a quand même un problème de coût, et que la Russie avait réussi à accueillir tout le monde dans des bonnes conditions, ce qui n'a pas servi à grand-chose par la suite, mais c'était ça. Mais donc effectivement, on voit bien là que si vous défendez la possibilité que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar, on vous traite d'esclavagiste, parce que c'est lancé. C'est lancé et c'est trop tard.
Comme pour beaucoup de choses, la nuance n'est pas vraiment là.
Et c'est lancé par qui ? C'est lancé par qui aussi ? Parce que contre qui le Qatar a eu la Coupe du Monde ?
contre les États-Unis.
Oui. Contre les États-Unis. Il faut aussi bien se souvenir de ça.
Ah bah, la FIFA a explosé par ce simple vote.
Et puis, les irrésistibles français, moi, je veux bien, ils sont gentils, mais est-ce qu'ils nous expliquent que c'est parce que ça coûte trop cher ou c'est par idéologie? Parce que si c'est par
Il y a plusieurs raisons, hein, forcément. Mmh. C'est pas aussi simple qu'on boycotte. Mmh. Hein. C'est aussi, c'est compliqué d'y aller, oui, ça coûte cher, les hôtels, on n'en trouve pas.
Enfin, c'est pas exactement la même chose. S'ils nous disent que si c'est par idéologie, ils ont quand même été chez Poutine il y a 4 ans. Bon, si ça les dérange d'aller au Qatar,
un petit deux poids deux mesures.
La cohérence est assez particulière.
Des appels au boycott, il y en a eu d'autres dans le passé pour les Coupes du Monde. Je pense à la Coupe du Monde 78 en Argentine, hein, sous la dictature Videla. Ça n'avait pas servi à grand-chose, Kevin Vessière. Il n'y avait pas eu vraiment de boycott non plus.
Oui, et puis à l'époque, il y avait vraiment, comment dire... On n'associait vraiment pas du tout le sport au côté politique. On avait vraiment cette image que la Coupe du Monde en Argentine, c'est du sport. Et puis la dictature argentine, c'était vraiment politique. Et les deux étaient dissociés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a moins cet a priori-là, parce qu'on a compris que finalement, le sport, c'était de la politique. Et finalement, même les appels au boycott ont été peu nombreux. Même on pensait que Johan Cruyff avait finalement boycotté cette Coupe du Monde, mais ce n'était pas le cas. Il avait eu des soucis pour venir, notamment il avait été aussi, je crois, il y avait
tentative
d'enlèvement, c'est ça. Donc finalement tout le monde avait participé, alors même que là c'était il y avait carrément des scènes de torture qui se passaient juste à côté des stades. Donc là c'était encore pire. Finalement cette Coupe du Monde a bien eu lieu et l'appel au boycott n'a pas véritablement fonctionné. Et pour faire un parallèle avec les Jeux Olympiques, les appels au quand il y a eu boycott pour les Jeux Olympiques de Moscou et de Los Angeles, finalement, à chaque fois, c'était les pays participants qui sortaient grandis. Donc, c'est vrai que cette question du boycott, en plus, elle intervient un peu tard, n'a pas beaucoup de sens pour la Coupe du Monde au Qatar, mais ça ne doit pas nous empêcher, effectivement, comme on l'a rappelé, finalement, que ça doit être un levier pour montrer les défauts de l'organisation de cette Coupe du Monde et pour que ça se reproduise, si ce n'est plus, en tout cas moins pour les prochaines éditions.
Pascal Boniface.
On parle souvent à la place des gens. Je ne suis pas sûr que les immigrés qui travaillent au Qatar demandent à ce que la Coupe du Monde soit boycottée. Il y a des gens qui parlent à leur place. De même que si vous parlez de 78, en 78, l'opposition argentine, y compris les Montoneros, qui étaient l'opposition armée, demandait aux gens de venir en Argentine pour témoigner de la dictature. Mm-hmm. Parce que c'était une façon d'en parler. Donc, et puis les intellectuels ou les cinéastes qui demandaient à ne pas y aller, ils n'ont pas demandé à ce que leur film et leurs bouquins ne soient pas exportés dans ce pays. C'est toujours, une fois encore, le sport qui doit être la variable d'ajustement des moralistes.
C'est quoi cette manière aussi de prendre en otage les sportifs et les téléspectateurs comme ça à un mois de la Coupe du Monde? Les footballeurs, les joueurs de l'équipe de France, on leur a rien demandé. On leur demande aujourd'hui de boycotter. Mmh. Et les spectateurs et nous, les fans de foot qui attendent ça depuis 4 ans, on nous donne des leçons de morale comme ça à un mois et demi en nous disant de boycotter. Mais ça, c'est hallucinant.
Il y a une grande évolution d'ailleurs là-dessus, parce qu'à l'époque, un Platini pouvait être interviewé là-dessus et répondre très naïvement, moi vous savez la politique, je m'en occupe pas.
Je crois qu'il a dit qu'il irait à la nage quand même. Hein, il a dit, moi je veux y aller en 78, s'il faut j'irai à la nage.
Mais aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça.
Aujourd'hui, celui qui répond ça, vous vous rendez compte, il s'en fiche totalement, c'est honteux.
Il est hors sol, c'est ça l'expression.
On crée des polémiques, mais avec tout et n'importe quoi, alors qu'un footballeur a tout à fait le droit, me semble-t-il, de ne penser qu'à son métier. Et si, évidemment, on peut lui demander d'avoir une certaine conscience ou autre, mais bon, d'abord, il va jouer la Coupe du Monde, et en premier lieu et en priorité.
Philippe Doucet, Clément Pernia, Kevin Vessière, Pascal Boniface, vous êtes nos invités jusqu'à 21h dans Europe 1 Sport. On va parler du foot qui unit les nations et du foot comme arme diplomatique dans un instant. À tout de suite.